Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Fabien, salut.
Salut.
Tu es membre d'une organisation politique dont tu vas nous parler et coordinateur également des rencontres d'été PEPS qui vont se tenir du 23 au 26 août 2020 à Rokubo.
C'est ça.
On va en parler tout de suite, mais présente-nous cette organisation politique.
Alors PEPS, du coup, c'est une nouvelle organisation mouvement politique quoi, qui se fonde sur l'écologie sociale et populaire, avec des principes, des choses qu'on a envie de défendre, comme l'écoféminisme, le municipalisme libertaire, le régionalisme, ce genre de choses. Donc vraiment une vision un peu d'écologie radicale par rapport à ce qu'on peut retrouver dans d'autres mouvements politiques, qui est plus une écologie de transition.
Inspiré de quoi ?
Inspiré de beaucoup de choses, des mouvements libertaires, des mouvements altermondialistes, des mouvements décroissants. C'est un peu toutes ces mouvances-là qu'on essaye de réunir autour de ce mouvement. Ça brasse des gens qui viennent un peu de partout, que ce soit en France ou avec des histoires de vie et politiques bien différentes. Et on vient présenter un peu ça. Et aussi avec une grosse base d'éducation populaire, parce que notre objectif, ce n'est pas forcément de prendre le pouvoir et d'avoir des élus, mais bien de faire changer les pratiques, les visions de voir les choses, du monde et tout ça, quoi.
Alors justement, en quoi c'est une organisation politique si dans l'image populaire collective, on s'attend évidemment à ce qu'il y ait des élus quelque part. Quel va être votre champ d'action ? Comment vous voyez ?
Nous, on s'interdit pas d'avoir des élus. C'est quelque chose qu'on a et voilà. Après, c'est pas principal. Par rapport aux autres organisations politiques partisanes, on va dire, où leur seul but c'est d'avoir des élus et de prendre le pouvoir. Bon, à part un peu l'UNPA, mais sinon les autres, c'est quand même ça leur objectif. Nous, c'est pas vraiment notre objectif de base parce qu'on va pas rêver, on sait très bien. Mais par contre, c'est d'emmener par exemple des sujets comme le municipalisme libertaire ou l'autogestion dans l'espace public, qui sont des débats finalement qui restent entre initiés, mais qui sont pas forcément parlés médiatiquement et tout ça. Donc, notre objectif, c'est vraiment de montrer qu'il peut y avoir d'autres choses aussi politiquement autour de l'écologie qu'une écologie d'alternance. Qui est quand même faite majoritairement dans des centres urbains pour personnes aisées, quoi.
Tu parlais d'éducation populaire, donc vous vous adressez plutôt à la population, plus qu'à essayer d'influer quelque part des municipalités, par exemple.
Ouais, alors les deux, après, nous on veut pas se mettre des lobbying ou quoi que ce soit, mais du coup éducation populaire...
Il y a des lobbies positifs, hein.
Il y a des lobbies très positifs, mais c'est pas ce qu'on a envie de proposer en tout cas, mais du coup c'est plus montrer qu'il y a d'autres façons de faire de la politique que des élections, donc en étant en soutien des luttes, en faisant des conférences, des projections, en allant dans les quartiers, dans les zones rurales, pour proposer des débats, pour soutenir des actions qu'il peut y avoir, aussi bien des luttes de paysans que des ZAD, que d'autres choses, quoi.
Ça, quel âge, ce mouvement-là ?
Du coup, c'est tout récent, parce que l'Assemblée Générale au niveau national, c'était en novembre 2019. Donc, entre le Covid qui est passé par là cette année, autant dire qu'on a ça a eu du mal un peu à avancer, quoi. Donc là, c'est vraiment à partir de cet été, justement, et de ces rencontres qu'on a envie de lancer le truc et de dynamiser tout ça, quoi.
Mais pour autant, vous êtes appuyé sur déjà une série d'ateliers qui ont été faits en amont. Enfin, comment se monte ce collectif ?
Non, après, c'est une myriade de micro-organisations politiques inconnues au bataillon. Qui se sont fédérés comme les réseaux décroissants, comme des réseaux un peu libertaires, ou des mouvements écolos qui descendaient un peu des Verts ou de la France insoumise qui sont partis, quoi, faute d'idées, tout ça. Et donc, du coup, qui se sont rassemblés, faut le dire quand même, c'est principalement des personnes avec des expériences politiques déjà très fortes, et du coup, qui se sont rassemblés pour monter justement un mouvement plus à leur image. Et tout ça, donc c'est un peu tous ces regroupements d'idées déjà et de pratiques qu'on crée le mouvement, quoi. Et là, maintenant, l'objectif, c'est vraiment d'emmener autre chose. Nous, par exemple, on a créé un groupe à Grenoble et on est une vingtaine et on vient d'aucun mouvement politique et on recrée complètement autre chose, quoi.
Pour une écologie populaire et sociale, je ne sais pas si on l'avait dit, c'est ça que ça veut dire, PEPS ?
Ouais, c'est ça. C'est pas que le chanteur grenoblois de Libertad.
Et c'est vrai, ça, c'est la première chose que je m'étais dit, mais.
Ouais, c'est vrai. Les gens du coin, enfin, Ronald, ils connaissent Peps, mais les Parisiens, personne ne connaissait Peps.
Voilà, bon, une petite pub pour lui au passage. Donc je ne sais pas ce qu'il fait encore.
Oh bah, plus grand chose. Je crois qu'il a un bar concert quelque part dans le Nord-Isère, mais c'est tout ce que je sais.
il fait plus de musique. Voilà, donc on va parler plutôt des rencontres d'été du 23 au 26 août. Donc c'est à Recoubeau-Jansac, au gîte de Roquebelle et à prix libre. Hein. Donc déjà rien que ça, on va dire c'est un beau lieu, si vous voulez aller le visiter.
Exactement, il est à vendre, il paraît, en plus.
Alors voilà. Donc, dis-nous un peu qu'est-ce que vous allez faire. Là, il y a un superbe fly avec beaucoup de panneaux, par exemple.
Ouais.
Et peut-être les décrire un petit peu. Qu'est-ce que tu entends, par exemple, par écoféminisme, par écologie décoloniale?
Ouais.
Qui sont des termes qui sont très intéressants, je trouve.
Oui, et qu'on ne cite pas beaucoup, justement.
Tout à fait.
Bah, l'écologie décoloniale, typiquement, c'est quelque chose qui est venu un peu au goût du jour, là, grâce à un auteur qui s'appelle Malcolm Ferdinand, qu'on aurait beaucoup aimé faire venir, mais qui malheureusement ne peut pas venir. Mais il y a d'autres personnes aussi qui s'intéressent à ce sujet-là. En gros, c'est que l'écologie occidentale, comme on la connaît, c'est une écologie racontée et pratiquée et voulue par le monde occidental, donc les gens qui ont le pouvoir, en fait, hein, dans le monde, clairement. Et donc, du coup, Malcolm Ferdinand, je ne sais plus, il vient d'une île du Sud, donc je dirais une connerie, donc je ne vais rien dire du tout, parce que je ne sais plus où c'est. Mais en tout cas, voilà, c'est pour lui comment, par rapport à ses origines et tout ça, comment il conçoit l'écologie et comment les pays en fait, qui ont été colonisés aussi conçoivent le mot l'écologie et le rapport à la nature, le rapport à toutes ces choses-là, quoi. Et donc, du coup, c'est une autre vision. Voilà, le mot décolonisation, on l'entend souvent en ce moment, notamment grâce au comité Adama ou aux luttes qu'il y a avec Black Matters aux États-Unis. Et c'est un peu justement déconstruire l'histoire occidentale qui est racontée quand même très souvent par la bourgeoisie et par ceux qui ont gagné, quoi. Et donc, du coup, là, c'est raconter l'histoire de l'écologie aussi par les peuples qu'on subit. Parce que nous, c'est bien beau de parler d'écologie chez nous, mais en fait, on vit et on a notre modèle de croissance et tout ça parce qu'on pille clairement les pays du Sud.
En les polluant au passage.
Et en les polluant au passage, voilà. Si on n'a pas tous les trucs informatiques et des déchets informatiques, c'est parce qu'on les envoie en Afrique, quoi. Enfin, voilà, au bout d'un moment. Et du coup, tout ça, c'est quelque chose qu'on a envie aussi de mettre dans l'espace public et que si on veut continuer, nous, à vivre comme on vit là, eh ben, faut continuer à polluer aussi les pays là-bas.
Avec cette double question également, qui est que notre train de vie nous permet, dans nos sociétés occidentales, d'avoir du temps pour penser à l'écologie, ou à débattre, ou à faire de la politique, comme c'est le cas là actuellement. Mm-hmm. Alors que parfois, dans d'autres pays en situation de guerre, ou ne serait-ce que de famine, n'importe quoi, c'est pas du tout le moment d'y penser à l'écologie.
Ouais, c'est pas du tout le moment d'y penser, et puis même sans aller aussi loin, parce que c'est vrai qu'en temps de guerre et famine, pour le coup, on pense pas à grand-chose si ce n'est survivre, mais du coup, même en France, en fait, il y a quand même, quand on est...
Ah oui, il y a toute une partie de la population.
Il y a toute une partie de la population qui, quand tu fais les 3-8 dans l'usine et que tu rentres, tu as 3 enfants, bah, en fait, tu n'as juste pas du tout envie de parler de ça forcément, quoi. Donc voilà, nous aussi, on prône aussi justement pour dire que l'écologie, elle n'est pas que pour les riches, justement. C'est montrer que, voilà, il faut travailler moins, il faut vivre autrement. Il faut aussi revoir toute cette lutte des classes qui est très importante, parce qu'on a tendance à sortir un peu l'écologie de la lutte des classes, mais en fait, c'est quelque chose qui est complètement lié. Donc voilà, on a aussi envie de parler de tout ça, quoi.
J'en profite, hein. Tu me dis si tu veux pas répondre à cette question, mais puisque tu viens de Grenoble, que les Verts ont été confirmés là-bas et que la politique municipale, visiblement, a tout d'un coup, ces riches-là se sont mis à voter écolo un peu partout maintenant en France. Et comment t'expliques que justement les masses populaires ne suivent pas, voire se mènent carrément désinscrits de la plupart des scrutins ces derniers temps?
Ouais, bah Grenoble, c'est un très bon exemple. Après, je ne vais pas forcément critiquer tout ce que la ville de Grenoble a fait, parce qu'il y a eu des choses bien quand même. Enfin, contrairement au PS d'avant, il y a eu des choses bien. Surtout que nous, on avait quand même Carignon, quoi, donc bon, un gros niveau de politique. Mais par contre, effectivement, je pense que les quartiers populaires n'ont pas voté typiquement à La Piolle, à Grenoble ou dans d'autres villes, à Lyon et tout ça, parce qu'ils ne s'adressent pas du tout à eux, parce que ce n'est pas leur classe sociale, parce qu'ils ne savent pas comment leur parler, parce qu'à Grenoble, typiquement, les quartiers sud, il n'y a rien qui a été fait pour eux pendant 6 ans. Enfin voilà, c'est pas, on est face à deux mondes différents, en fait, et qui ne se comprennent pas forcément, et que du coup, bah, c'est compliqué de dialoguer, c'est compliqué de se comprendre... Et tout ça, et à Grenoble, c'est vrai que le maire actuel, il a réussi à avoir un électorat qui était plutôt qui peut vaciller entre Macron, le PS et Europe Écologie parce qu'ils sont, ils se parlent, ils se comprennent, ils sont dans la même classe sociale. Enfin voilà, c'est ce genre de... Et à Lyon, c'est pareil. Enfin,
mais du coup, pardon, pour rester sur Grenoble, est-ce que du coup, il y a eu une certaine amélioration pour les classes non populaires? Est-ce que pour autant ça fait progresser écologiquement la ville d'une manière générale, ou est-ce que la disparité entre, tu citais les quartiers sud et mettons, je ne sais pas, un centre-ville reverdi, rénové avec moins de voitures, finalement ça change rien à, j'allais dire, la production de carbone annuelle. Enfin, c'est
non, bah, disons que
c'est une goutte dans l'eau ou...
Ouais, alors il n'y a rien de bien révolutionnaire, ça c'est évident, mais en même temps, quand t'es maire et que le département, la région, la métro est plutôt moins à droite, c'est quand même compliqué de faire tout changer, que l'État aussi. Ce qui est sûr, le point positif, c'est qu'il y a un certain clientélisme qui a été arrêté, qui était quand même assez violent et qu'on retrouve un peu dans chaque grande ville, même des fois dans des plus petites villes. Donc ça, c'est vrai que le clientélisme avec les dealers, avec certaines assos communautaires ou quoi, ça a été arrêté. Par contre, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui a été mis pour remplacer ça, quoi. Donc c'est vrai que quand tu donnes... voilà, du coup, maintenant, c'est réfléchir à qu'est-ce que tu mets en place pour créer une vraie dynamique dans ces quartiers-là, pour mettre en place qu'il y ait encore de nouveaux services publics, qu'il y ait encore des commerces, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y en a plus quasiment. Enfin, Grenoble, si on prend Mistral, Villeneuve et tout ça, c'est quand même... Enfin, voilà, en termes de commerce de proximité et d'assaut local et tout ça. Enfin, il y en a, mais voilà, maintenant, comment on les soutient, comment on dynamise un peu ces territoires-là, comment au niveau urbanistique aussi, on rechange un peu le quartier. Et là, il y a des réflexions qui sont faites là-dessus, mais c'est vrai que la priorité ces 6 dernières années, ça a été vraiment le centre-ville. Ça a été comment rendre accessible la ville en vélo, ça a été comment on arrête de mettre des voitures dans le centre-ville. Et ça, typiquement, ça parle aux gens du centre-ville, mais ça ne va pas parler aux gens des périphéries, quoi. Mmh, mmh.
Bon, il a 6 ans pour s'en occuper, puis ça. On va pas faire son programme.
Non.
Merci pour ce regard. Et l'écoféminisme, parle-nous-en un peu.
Ouais, donc l'écoféminisme, c'est un courant qui bizarrement vient, enfin, le terme en tout cas écoféminisme vient de France, avec Françoise Daubonne dans les années 70, mais qui a pas du tout été, qui a pas pris en fait en France, et du coup qui a par contre eu un grand retentissement dans les pays anglo-saxons, Angleterre, États-Unis, notamment sur la lutte anti-nucléaire, où justement les femmes à cette époque-là, elles considéraient le nucléaire comme une vision très viriliste de l'énergie et de la toute-puissance, du tout-pouvoir et tout ça, en pleine période où on faisait des essais un peu partout dans les océans. Et donc du coup, c'est un peu comment justement elle relie le rapport à la nature. En fait, ça vient du constat de dire que l'homme, donc l'homme pas l'humain, hein, l'homme masculin, en fait, il domine aussi bien la nature que les femmes. Et que du coup, le combat est le même, c'est que ça vient de la même chose, en fait, et d'une société patriarcale qui veut tout contrôler et tout dominer, et que du coup, la lutte de la protection de la protection de la nature et la lutte pour les droits des femmes est le même, en fait, et il faut le réunir. Et du coup, ça vient de ce moment-là, et notamment de la réappropriation du corps des femmes, enfin tout ça. Après, il y a eu plein de disparités aussi dans le mouvement écoféminisme, entre les spiritualistes, les essentialistes, enfin voilà. Mais en tout cas, ça vient de là, quoi. Et notamment Françoise Daubonne, elle prônait la grève de la natalité, où pendant un an, il fallait qu'aucune femme fasse des bébés pour se réapproprier son corps et les moyens de production aussi, en disant que l'homme s'appropriait les moyens de la femme, même sur la reproduction, en fait, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose maintenant qui revient un peu au goût du jour en France, notamment avec Mona Chollet ou avec Émilie Hache ou des intellectuels comme ça. Et donc là, on voulait le lier aussi avec des luttes pratiques où on invite notamment Fatima Wassak, qui a créé Front des Mères et qui est une des porte-parole du comité Adama, où elle a, dans son quartier à la banlieue parisienne, elle a proposé le jardin partagé, elle a fait le lien justement entre l'écologie et le féminisme, aussi dans une vision, pour le coup, intersectionnelle, parce que c'est une femme musulmane, voilée et tout ça. Donc on trouvait ça super intéressant. Voilà.
Et enfin, peut-être un dernier, le municipalisme libertaire, s'il
ouais.
te plaît, Fabien.
ça, c'est encore pareil. Dans les années 70, c'était quand même une période assez riche où on voit qu'on a quand même assez régressé. Enfin, on n'a pas trop avancé depuis 50 ans sur des réflexions intellectuelles. Mais du coup, ça vient d'un auteur américain qui s'appelle Murray Bookchin, mais qui a été déjà... C'est vraiment lui qui l'a théorisé. Après, c'est quelque chose que d'autres auteurs ont travaillé. Mais du coup, c'est de revoir en fait nos pratiques aussi démocratiques... C'est de revoir nos pratiques démocratiques à l'échelle d'une cité qui est, alors il n'y a pas vraiment de nombre, c'est quelque chose qui est réfléchi en tout cas, quoi. Mais on part du constat qu'une métropole ou autre, bah, il n'y a pas d'espace démocratique en fait. Et on le voit sur les votes, hein, quand il y a 30% d'une ville.
On parlait de Grenoble.
Voilà, ouais. de 300 000 habitants qui votent, c'est rien du tout. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est revoir un peu justement nos échelles démocratiques, c'est tout ça. Et nous, on a envie de le coupler aussi avec un concept qui s'appelle le biorégionalisme, qui est démocratisé notamment par Mathias Rollo en France, qui est un architecte lyonnais. Et du coup, c'est sur une, on va dire, une entité géographique qui n'est pas une entité géographique administrative, mais qui va être plus une entité géographique territoriale sur le je sais pas, sur
alors parler de Grenoble par exemple, ça pourrait être le quartier Villeneuve tout
ouais,
seul
par exemple, ouais. Ça pourrait être le quartier Villeneuve, ça pourrait être autre chose. Après, ça peut être des espaces urbains ou des espaces ruraux, mais qu'ont un ensemble géographique cohérent, quoi. Là, on se retrouve avec des territoires Rhône-Alpes Auvergne, il y a aucune cohérence, enfin c'est pas très enfin voilà, en termes géographiques, c'est quand même une aberration, mais du coup, voilà, et c'est revoir un peu, là, typiquement, en Rhône-Alpes-Auvergne, il y a la Savoie, qui est un territoire assez fort, avec une culture locale, avec une langue locale, avec une histoire aussi très forte, et du coup, c'est comment redonner, en fait, de la force aussi à ces territoires-là, et finalement, les rendre un peu autonomes administrativement face à l'État français tout-puissant qui veut contrôler, et finalement, qui détruit aussi toutes les identités locales, quoi. Et du coup, c'est remettre un peu d'espace démocratique, mais aussi un truc qui, sur l'identité, en fait, que nous, on estime très forte. Et que, par exemple, maintenant, y a, les langues régionales ont disparu, quasiment toutes, à part en Bretagne ou en Occitan.
Pays Basque.
Au Pays Basque. Mais du coup, c'est dommage. Et le Corse, par exemple, a été interdit. Enfin, c'est allé en prison si tu parlais Corse à une époque. Enfin, voilà, il y a eu ces choses-là qui se sont mises en place. Et nous, on estime que au-delà de la démocratie locale, mais c'est aussi tous des espaces de vie, en fait, qu'on doit redonner... au goût du jour, quoi, sur l'alimentation, sur plein de choses, des pratiques, enfin voilà.
Et puis donc, on disait, hein, éducation populaire, il sera question également d'antiracisme et d'alternatives sur l'autogestion, de décroissance évidemment. Les rencontres PEPS, donc c'est du 23 au 26 août 2020 à Rokubo, au gîte de Roquebelle. Fabien, pourquoi le Diwa?
Pourquoi le Diwa?
Est-ce que tu vois un peu de tous ces panneaux ici?
Ouais, bah, je pense que le Diwa, c'est quand même une terre, un territoire très intéressant en termes d'alternatives. Enfin, il se passe quand même vraiment beaucoup de choses pour avoir quand même pas mal vadrouillé en France pendant des années. Bah, du coup, c'est vrai que pour une zone rurale, en tout cas, il se passe quasiment autant de choses que dans un espace urbain, en termes culturels, social et tout ça. Donc déjà, c'est quelque chose de super intéressant. Qu'il y a des personnes aussi, là, on fait venir des personnes qui habitent le territoire, comme Olivier Duchuteur, Corinne Morel-Darleux, Pablo Servigne. Enfin voilà, c'est des personnes aussi qui font vivre ce territoire-là et qui l'animent. Et donc du coup, on trouvait ça intéressant de venir aussi sur ce territoire pour parler de toutes ces alternatives. Alors certes, c'est peut-être par plus la facilité que si on allait dans le Nord-Isère ou en Creuse, mais du coup, c'est aussi parce que nous, on voulait pas forcément se faire quelque chose à Grenoble, qu'on est beaucoup, enfin, on connaît beaucoup de gens par ici aussi, et que du coup, on trouvait ça intéressant de relier tout ça et de le faire dans la Drôme. Et ça se trouve l'année prochaine, il sera dans l'Aveyron ou je sais pas où, mais et on voulait pas le faire à Paris non plus parce que tout se passe déjà à Paris, donc c'était pas forcément très intéressant, surtout l'été. Et puis ça donne la possibilité aussi, vu que les gens viennent de toute la France, que ce soit les intervenants ou le public, et ben ça donne la possibilité aussi à tous ces gens-là de découvrir ce magnifique territoire.
Ben du coup, ça permettrait peut-être de préciser qui vous attendez là-bas comme public en fait.
Ouais.
Et comment il est ouvert justement au territoire. Quand on peut imaginer qu'il est déjà un peu initié ici.
Ouais, voilà, c'est ça. Et bah, déjà, donc nous, bah, y a tout, 'fin, y a une partie des gens qui sont militants déjà dans le mouvement politique qui vont venir. Donc là, ça regroupe des gens vraiment de toute la France. Après, là, on a vraiment voulu l'ouvrir. Donc on ne veut pas être université d'été pour réfléchir à nos pratiques, à ce qu'on pense. Enfin, si, on veut réfléchir à nos pratiques, à ce qu'on pense, mais pas fermé entre nous, quoi. Donc l'idée, c'était vraiment de l'ouvrir aussi, de faire entre... En gros, entre l'université politique et le festival, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que le soir, on a aussi des concerts, des spectacles, des projections, des choses comme ça qui sont ouvertes à tout le monde. Et là, bah, on attend du public très varié. Enfin, là, je prends les inscriptions, par exemple. Il y a des gens, ils viennent de toute la France, des gens qu'on ne connaît pas du tout, qui ne sont pas du tout dans notre courant politique, mais qui sont curieux parce qu'il y a aussi des intervenants qui sont intéressants. Il y a des sujets que pas grand monde ne parle généralement. Donc on a vraiment voulu le rendre la chose ouverte, quoi. Et aussi, c'est un moyen pour nous, clairement, de nous faire connaître.
Oui, parce que comment vous avez communiqué ? Enfin, là, merci d'être ici. Mais, ouais. vous faites circuler sur quel type de réseau pour que ça se sache de la France entière ?
Les réseaux un peu alternatifs. Mais c'est vrai qu'on là pour le coup, ça a été fait quand même vachement dans les réseaux politiques, quoi. Donc les newsletters et tout ça, de plusieurs appels, de plusieurs choses. Après, par les réseaux sociaux, beaucoup. On a un site internet, un Facebook, Twitter, tout ça. Et après, là, on essaye de l'envoyer un peu à des médias différents. Mais vu que non plus, on ne va pas accueillir 1000 personnes, parce que la jauge entre le Covid et le fait que le gîte est non plus pas exponentiel, quoi. Donc, si on a 150 personnes, on est content et on les aura assez facilement. Donc du coup, on ne va pas mettre plein de fly partout, plein d'affiches. L'idée, ce n'est pas de regrouper 500 personnes et mal les accueillir parce qu'on n'a pas la place et on n'est pas organisé pour ça. Donc là, on communique dans des réseaux un peu informels ou formels sur Facebook, quoi.
Et en termes d'invités, alors là, tu en as cité trois, les locaux de l'étape.
C'est ça, sachant que Pablo Servigne, ce n'est pas encore sûr, mais c'est en cours.
Alors, qui y a donc ?
Ouais, alors pour citer un peu les personnes qui vont être un peu connues, enfin connues, c'est pas des stars non plus, mais du coup, donc on a Fatima Wassak que j'ai citée tout à l'heure, qui est intéressante. Après, on a Renaud Duterme, qui est le président du CADTM, qui viendra parler justement, qui a écrit un bouquin sur le petit manuel de géographie de combat, qui est un géographe, et pour faire le lien justement avec ces territoires géographiques. Après, on va avoir des personnes comme Christian Sann, qui est un des représentants du mouvement décroissant en France. Après, on a Benoît Boritz, qui est un des rares économistes qui base tout son travail sur l'autogestion dans le monde de l'entreprise, dans ces choses-là. On a Danielle Obono, qui est une députée France Insoumise, qui viendra aussi parler d'antiracisme et d'écologie décoloniale. On a Stéphane Lavignotte, qui est pour le coup assez. C'est un pasteur décroissant, donc tous ces sujets, il travaille beaucoup sur le fait de dire que dans la Bible, l'homosexualité existait par exemple, ou la transsexualité existait aussi. Il essaye de prouver que par la Bible ça existe, donc il est assez décalé, on va dire, par rapport.
Il doit avoir des problèmes, lui.
Ouais, il doit avoir des problèmes, ouais. C'est ça. Après, là, on est en discussion, donc c'est pas confirmé, mais c'est en cours aussi avec Élodie Vieille-Blanchard, qui est la présidente de l'Association végétarienne de France, pour parler justement d'un débat pour lequel nous-mêmes, on n'est pas tous d'accord, qui est l'antispécisme et l'élevage. Donc là, il y aura une personne de la Confédération paysanne aussi. Parce que c'est un débat, je pense, qui est vraiment important, mais un peu avant-gardiste encore, pour qu'on s'aperçoive que les animaux sont aussi des êtres avec des sentiments et tout ça, et que les posséder, en fait, c'est quand même quelque chose de problématique.
L'antispécisme qui rejoint assez directement le patriarcat. Hein.
Exactement, ouais. C'est le principe de domination, quoi. Et donc après, on a Eva Doumbia aussi, qui est une personne qui a créé le collectif, elle a cofondé avec d'autres, notamment Françoise Vergès, le collectif d'artistes Décoloniser les Arts, pour montrer que aussi dans le milieu culturel, en fait, il y a encore du travail, il y a beaucoup, beaucoup de travail par rapport à ça. Donc il y a plusieurs, je ne vais pas tous les citer, mais il y a plusieurs intervenants et intervenantes comme ça. On a essayé de faire la parité, mais c'est, c'est compliqué. Mais après, il y a tout un tas d'autres gens qui viennent.
Donc ça va se présenter comment ? C'est des conférences, des tables rondes
Il y a des ateliers. Donc tous les matins, c'est des ateliers. Donc il y a différents
ateliers.
Alors l'accueil,
par exemple, à partir de quelle heure ?
9h le matin. 9h le matin, ouais. Après, il y a des gens qui dorment sur place, notamment ceux qui viennent de loin et tout ça.
Donc des ateliers
Plutôt ateliers sous forme un peu d'éducation populaire, par petits groupes pour que tout le monde puisse participer sur des thématiques très précises qui ont souvent été mises en place la veille ou autre. Enfin, ou la table ronde, on a parlé de ça la veille de manière plus théorique et du coup, le matin, on essaye de travailler dessus par atelier. Donc l'après-midi, après, c'est plus des tables rondes, conférences table ronde avec des intervenants, mais on laisse toujours aussi des espaces de questions-réponses. Pour le public, parce que c'est important. Et le soir, plutôt quelque chose de culturel, donc soit projection, soit concert, soit spectacle. Et notamment, on a un super spectacle qui rejoint aussi ce qu'on a envie de défendre. Donc, c'est un spectacle sur les Fralib. Les Fralib, c'est une entreprise dans le sud qui appartenait au Télipton. Et du coup, qui devait fermer, délocaliser, comme beaucoup de multinationales. Et eux qui se sont battus et qui se sont réappropriés leurs moyens de production et qui ont créé maintenant l'été 1336. Et avec tout un volet aussi écologique où ils ont notamment relancé, recréé le tilleul et tout ça, parce que ça avait plus ou moins disparu, parce qu'on allait acheter en Chine ou ailleurs. Et donc avec aussi cette... cette volonté-là, quoi. Donc, c'est quand même assez rare aussi dans ce genre d'entreprise d'avoir cette volonté écologique. Donc, c'est super intéressant. Et là, c'est quelqu'un de la Comédie de Saint-Étienne qui a été avec eux pendant plusieurs mois avant qu'ils gagnent. Parce que ça, c'est important aussi. Et en fait, maintenant, il dit leurs paroles, en fait, à l'époque, quand ils étaient en plein dans la lutte. Et du coup, c'est juste un recueil de paroles et ça dure 2 heures. Et c'est vraiment complètement fou.
Alors, c'est quel soir, celui-là?
Ça, c'est le lundi soir, lundi 24 août. Et après, on a un concert le mardi soir avec la SEF, qui est un groupe qui fait le tour un peu du Diwa cet été, là. Et Tigadrine, qui est un groupe franco-marocain de Grenoble aussi.
Est-ce que ces concerts sont ouverts aux gens qui ne seraient pas venus dans la journée?
Bien sûr, on ne va pas fliquer les gens. Déjà, on ne va pas reconnaître tout le monde, on ne va pas fliquer les gens. Donc, en fait, les gens, ils viennent et une fois que la jauge est atteinte, et ben, la jauge est atteinte, quoi. Voilà.
Et puis le film, tu disais projection.
Et le film, ouais, donc le film, c'est un peu. Du coup, on n'a pas réussi à voir les réalisatrices parce que c'est un peu dommage, elles ne sont pas là. Enfin, on est l'été, c'est un peu compliqué, mais ça s'appelle Ni les femmes, ni la terre. Et du coup, c'est trois jeunes réalisatrices qui ont suivi les luttes des femmes d'Amérique du Sud. Et justement, on est vraiment en plein cœur de l'écoféminisme. C'est un film qui se revendique de l'écoféminisme, justement, où c'est les femmes qui luttent aussi bien pour protéger leur terre, en fait, leur terre agricole, leur forêt et tout ça, mais qui luttent aussi pour leurs droits. Parce qu'elles ont le droit quasiment à rien là-bas, même pas le droit de vote, vu que c'est des femmes autochtones, paysannes. Enfin voilà, donc du coup, elles ont suivi un peu ces luttes-là au Chili, dans différents pays. Et donc, elles le montrent par ce biais de ce film-là, quoi.
Les rencontres d'été PEPS, 23-26 août 2020, à Recoubeau-Jansac. Alors, c'est à prix libre, mais tu parlais tout à l'heure d'inscription. Parce que ouais. Justement, ça permet de remplir les jauges.
Ça permet de remplir les jauges. Et puis l'inscription, c'est surtout utile pour ceux qui veulent venir manger. Parce que la nourriture n'est pas organisée, du coup. Ouais. Et là, c'est une association qui viendra préparer avec que des produits locaux, bio et tout ça, et végétariens, de la nourriture les midis et les soirs. Et donc là, le repas, c'est 10 euros. Et après, l'hébergement aussi, c'est payant parce qu'il faut qu'on rembourse le prix du gîte. Voilà, mais sinon, après, on ne demande pas forcément aux gens de s'inscrire s'ils viennent juste participer sans forcément prendre le repas et dormir sur place. Mais nous, ça nous permet aussi d'avoir une petite jauge et d'éviter de refuser tout un tas de monde le jour J, quoi. Mmh,
sur place.
Sur place.
Alors, comment on s'inscrit?
Eh bien, on s'inscrit donc soit sur. Donc, on a un site internet que j'ai oublié le. j'ai oublié le site sur pepsizer@gmail.com. moi je peux renvoyer toutes les infos après et tout ça. Sinon à Facebook, c'est les rencontres d'été de Peps sur Facebook, sur l'événement, et là il y a un lien Framasoft pour s'inscrire, voilà, qui on demande un peu si les gens ont besoin d'hébergement, s'ils prennent les repas, s'ils viennent de loin par exemple pour les covoiturages aussi. Bon, on centralise un peu les infos pour ah tiens, là il y a 2 personnes qui cherchent des places en partant de Nîmes ou quoi, et du coup voilà, ça aide là-dessus.
C'était quoi le nom du groupe marocain?
Tigadrine.
Tigadrine.
C'est un tout nouveau projet aussi, ça a même pas un an, mais ça déboîte. Tigadrine. Ouais, je dis pas ça parce que je bosse avec eux, mais.
Donc il y a du son.
Là, c'est fou. On va sortir un clip bientôt.
Mais non, en mais vrai, on pourrait sortir un morceau là pour, tu vois, pour illustrer.
En fait, là, c'est vraiment. Ils sont. En fait, ils habitent au Maroc. Il y en a deux qui habitent au Maroc. Et ils n'ont pas le droit de. Tous les 3 mois, ils sont obligés de revenir au Maroc, revenir en France. Enfin, c'est un bordel sans nom. Mais en gros, là, ils jouent une fois, ils trouvent 3 dates. À chaque fois, du coup, ça marche comme ça. Dès qu'ils jouent, ils ont 3 dates. Dès qu'ils jouent, ils jouent trop, ils ont 3 dates. En gros, c'est les nouveaux Tinery One, quoi. Ça, juste, ça déboîte. C'est un truc de ouf. Mais il n'y a rien, là. Le clip, il n'est pas encore tout à fait sorti. C'est dommage.
Eh bien, Fabien, merci pour cette présentation.
Merci à toi.
Bien exhaustive de ces rencontres d'été. Je le dis encore une dernière fois, c'est à Recoubeau, gîte Rockbell, voilà, du 23 au 26 août 2020. Bonne organisation.
Merci.
Là.
merci.
Et puis à une prochaine.
Merci de l'invitation et puis à tout bientôt.
Ouais, on se tient au jus.
Ça marche.